Chers frères et sœurs, voici donc l'histoire de Hanna, Anne, figure de grâce, pour voir de quelle manière elle révèle la grâce qui intervient dans notre histoire. Le personnage n'est pas la source de la grâce, c'est Dieu qui est source de la grâce. Anne est plutôt agent de la grâce. Elle est au bénéfice de la grâce et la grâce va rejaillir à travers elle. En l'observant, nous allons, je l'espère, pouvoir repérer trois caractéristiques de la grâce, à savoir qu'elle est inconditionnelle, qu'elle transcende les situations et qu'elle a une perspective universelle. Tout d'abord, voyons de quelle manière la grâce a un caractère inconditionnel. Cela peut s'observer dans le fait que cette femme, au début de l'histoire, est stérile et qu'elle va devenir enceinte puis donner naissance à un enfant. Voyez, quel est le mérite de cette femme ? Aucun. Le texte biblique précise même, comme je vous l'ai rappelé, que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est dire si cette femme ne bénéficiait d'aucune aura particulière. On ne peut pas dire qu'elle faisait partie du peuple élu. On ne peut pas dire qu'elle tenait le haut du pavé ou qu'elle était sur le sommet du panier. Rajoutez toutes les expressions que vous voudrez bien. Anne était donc stérile, et Dieu, en plus, y était manifestement pour quelque chose. Alors, comment comprendre cela, tout d'abord ? Est-ce que Dieu aurait puni Anne, et cela expliquerait qu'elle n'arrivait à rien ? Si c'était le cas, cela signifierait que Dieu serait passablement sadique, puisque elle n'avait rien fait de particulier, mais en tous les cas, rien pour mériter cela. On peut dire que dans une certaine mesure, Anne était assez transparente d'ailleurs. Elle manquait un peu de consistance. On ne peut pas dire qu'elle avait véritablement fait histoire. Mais à supposer qu'elle se soit mal comportée, après tout, cela peut arriver, qu'elle ait mal parlé, notre théologie nous inciterait-elle à penser qu'il serait normal que Dieu la punisse ? Notre théologie, s'appuyant sur les récits bibliques, nous rappelle que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'il ait décidé de rendre Anne stérile parce qu'elle aurait commis un délit, voire un crime. Et pourtant, dans cet épisode, Dieu semble être à l'origine de la stérilité d'Anne. Et cela peut se comprendre de deux manières, je pense. D'une part, cela peut se comprendre comme un élément posé par le rédacteur pour indiquer que le succès qui va intervenir pour Anne ne tient pas à une situation de départ particulièrement glorieuse. Je veux dire que il y a peut-être là, chez le rédacteur, une manière de dire que Anne n'est pas une privilégiée. Elle n'a pas de noblesse particulière. Elle n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche qui expliquerait ses succès postérieurs. Le point de départ est donc modeste, si ce n'est misérable. C'est peut-être donc un effet du rédacteur. Le deuxième élément qui nous permettrait de comprendre cela, c'est que quand on se demande ce que Dieu vient faire là-dedans, on peut se demander si finalement Dieu n'est pas dans une certaine mesure castrateur ou stérilisateur pour le cas d'une femme. Cela ne signifie pas que Dieu ait empêché délibérément Anne d'être féconde. Cela signifie que ce que Dieu représente, l'idéal de vie que Dieu représente peut sembler tellement haut qu'il semble inatteignable et que cela coupe tout. Cela force la résignation. On pourrait penser à bien des situations où face à quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement désirable, nous retrouvons finalement les jambes coupées en se disant qu'on n'y arrivera pas. Et ça c'est une façon de dire qu'on est stérilisé, on est médusé, tétanisé. C'est une sorte d'effet perverse. Au lieu d'encourager à l'excellence, un idéal peut produire de la médiocrité. Si cette interprétation me semble juste, c'est en raison de l'enchaînement des faits qui sont racontés dans ce passage biblique. Le point de départ est donc la stérilité d'Anne. Cette situation, pour le moins contrariante, l'attriste, c'est ce qui est dit au verset 6, que je ne vous ai pas lu, à un point qui doit l'exaspérer suffisamment, comme le dit le verset 16 que je ne vous ai pas non plus lu, pour qu'elle décide que ça ne peut plus durer, et elle se rend au temple pour prier Dieu. Ce Dieu qui la tétanise, qui lui fait réaliser que ce Dieu qu'elle imaginait terrifiant, ce Dieu redoutable dont on parle si souvent dans la Bible, au point que les croyants sont désignés comme les craignants Dieu, eh bien, ce Dieu inaccessible qui s'imposait à elle tel un tyran peut changer de visage. La prière au temple lui fait découvrir qu'il est toujours disponible en fait pour elle, toujours disponible pour la soutenir et pour l'encourager, pour encourager son désir de vivre et de porter la vie. Et le dialogue avec le prêtre du temple lui permet de se convertir à une autre image de Dieu que celle qu'elle nourrissait en son âme jusque-là. Il en découle que son mari la connaît. C'est ce que le texte biblique dit au début du passage que je vous ai lu. Dire que son mari la connaît, c'est une formule biblique pour dire qu'ils se mettent à partager une intimité telle qu'ils se découvrent l'un à l'autre. Gentille périphrase qui signifie qu'en fait, ils ont une relation sexuelle ensemble. Et c'est alors, dit le texte biblique, que Dieu se souvient d'elle. Je ne sais pas si c'est un lien de causalité ou une corrélation, mais c'est au moment où ils couchent ensemble que Dieu se souvient d'elle. Elle devient enceinte et elle donne naissance à son fils. Comment comprendre que Dieu se souvient d'elle dans ces circonstances-là ? Avouez que ce texte n'est quand même pas très simple pour la théologie. Serait-ce à dire que Dieu change d'avis ? Que jusque-là, elle méritait d'être stérile et que maintenant, elle ne le mérite plus. Est-ce que Dieu cesserait d'être sadique envers Anne à ce moment précis de l'histoire ? Dire que Dieu se souvient d'Anne, cela signifie qu'il l'a fait extraire du passé pour la faire entrer dans le présent. Quand on songe à ce que signifie ce souvenir, cela signifie prendre quelque chose qui est dans le passé et lui donner accès au présent. C'est vrai pour un souvenir que nous aurions en tête, mais c'est du coup vrai pour une personne dont on se souviendrait et qui, désormais, est partie intégrante de notre actualité. Voilà ce qui se passe avec Anne. Elle vient de prendre conscience que la grâce est inconditionnelle, ce qui signifie qu'elle est là, présente, disponible, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, quels que soient nos sentiments intérieurs, quels que soient nos succès ou nos échecs passés. La grâce est disponible comme l'air, en fait. Il n'y a pas d'épreuve à réussir pour y avoir accès. Mais, de même qu'il faut ouvrir la bouche ou le nez pour saisir l'oxygène dont nous avons besoin, il nous appartient de saisir la grâce disponible. Pour le dire plus trivialement, Anne n'avait qu'à coucher avec Elkana, en fait, pour avoir un enfant. Ce qu'elle n'avait jamais fait jusque-là, en fait. Du moins, le rédacteur biblique indique que c'est au moment de sa conversion intérieure que son mari l'a connue et qu'elle fut enceinte. Et vous voyez, cette interprétation, aussi triviale et banale soit-elle, n'est pas sans nous faire penser à l'autre récit, celle de Marie et de Joseph. Ce n'est pas sans évoquer Marie, la mère de Jésus, à qui Gabriel vient annoncer qu'elle va être enceinte. Et que répond Marie ? « Mais comment cela m'arriverait-il, moi qui ne connais personne ?» Et comme j'ai tendance à le dire, et Joseph, c'est juste pour faire joli. Gabriel vient annoncer qu'elle va être enceinte. Elle se demandera comment cela sera possible. Et au fond, ce qu'il s'agit pour elle d'entreprendre, c'est une conversion intérieure qui va changer son regard sur la situation. La grâce est disponible, Joseph est disponible. Encore faut-il saisir cette grâce. La vie, notamment la vie religieuse, est d'abord une histoire d'éducation qui permet de comprendre comment fonctionne la vie. Au fond, ce texte nous dit que Anne n'était pas plus mal partie qu'une autre, mais il y avait un élément indispensable pour elle, c'était de découvrir les points d'appui disponibles. Une fois qu'on a pris appui sur ce qui est disponible, on peut enfin faire son entrée dans le présent. On peut se mettre à faire histoire. Et la grossesse conduit à la naissance de Samuel. Le lecteur est rassuré. Avec Dieu, tout se passe comme prévu. On obtient ce qu'on demande finalement. Enfin, pas tout à fait. Penser qu'avec Dieu, on obtient ce qu'on demande, c'est opter pour la religion populaire plutôt que la religion biblique. Voyons cela pour constater que le deuxième point que je relève au sujet de la grâce est que nous ne maîtrisons pas tout à fait les effets de la grâce et que nous n'obtenons pas, à vrai dire, ce que nous demandons. La grâce produit plus que nos espoirs. Cet aspect est mis en évidence par un curieux effet de la rédaction qui, je vous le rappelle, s'est étalé au fil des temps. Et là, Dany Nocquet ouvre de grands yeux et de grandes oreilles pour vérifier que je ne vais pas exprimer de bévue. Quand nous regardons attentivement le texte biblique en hébreu, un soupçon émerge. Est-ce bien de Samuel dont il doit être question dans ce texte ? Est-ce bien de Samuel dont il doit être question au bout de cette grossesse ? Vous ne voyez pas l'œil pétillant de Dany, mais je peux vous assurer que c'est un spectacle à lui tout seul. Le verset 20 indique qu'une fois qu'Anne a accouché de son fils, elle l'appela du nom de Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Or, en hébreu, si le texte parle bien de Samuel, Shemuel, c'est le verbe demander, lui, c'est Shaal, qui donnera le nom Shaoul, c'est-à-dire Saül, le premier Messie et roi d'Israël. Même chose un peu plus loin au verset 28, où c'est encore le verbe Shaal qui est employé deux fois pour indiquer quelle sera la vie de son fils. Elle l'a fait demander à l'Éternel, et si nous en restons au texte hébreu, la traduction devrait être « Tous les jours de sa vie, Saül sera pour l'Éternel ». Ce qui change de la traduction de Louis II, « Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera tous les jours prêté à l'Éternel ». Dans un premier temps de la rédaction, il est donc probable que ce soit la naissance de Saül qui soit décrite ici, ce qui serait cohérent. Anne demande, et au bout de la demande, il y a Saül, le demandé. Si vous vouliez un prénom un peu plus français, on pourrait dire Désiré. D'ailleurs, on pourrait traduire Saül par Désiré. Et c'est dans un deuxième temps de la rédaction que le prophète Samuel fut introduit dans cette histoire et qu'il prit la place de Saül, probablement. On pourra en discuter à la fin du culte. On verra. Il me semble que ce travail de rédaction est tout à fait intéressant d'un point de vue théologique. Cela crée un enseignement tout à fait saisissant puisque la prière de demande formulée par Anne trouve désormais un nouvel accomplissement. En effet, dans un premier temps, Anne avait demandé un fils avec insistance et il lui était né Saül, donc demandé. La nouvelle rédaction fait que le fils s'appelle Samuel, ce qui en hébreu signifie « nom de Dieu ».« nom de Dieu. C'est quand même une belle expression quand il nous arrive quelque chose d'incroyable, de surnaturel, de supérieur à ce que nous imaginions. Cela indique surtout que l'histoire de la grâce, c'est une histoire d'inattendu. On s'attend à quelque chose et en fait, on a plus que ce qu'on attendait, ou du moins on a autre chose qui va plus dans le sens de Dieu que ce qu'on osait espérer. Et c'est, à mon avis, ce que nous propose ce deuxième rédacteur, qui montre que la grâce, c'est la transcendance des attentes, des espoirs et des vœux. On veut un fils tel qu'on le désire, un fils conforme à ce qu'on demande, et nom de Dieu, ce qui arrive transcende non seulement la situation initiale, puisqu'il n'est plus question de stérilité, mais ce n'est pas un enfant à notre dimension qui vient au monde. C'est le nom même de Dieu. C'est l'essence de Dieu qui vient au monde. Et nous avons la même chose avec Jésus. Ne l'oublions pas. Dans l'évangile de Matthieu, on nous annonce Emmanuel au verset 23 du chapitre 1, qui est d'ailleurs une citation d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Et c'est Jésus qui vient. Au verset 25. Je ne dis pas que c'est la même histoire qui se répète, mais il y a là des traits communs qui sont caractéristiques de ce que la grâce nous offre. Dieu ne se contente pas d'être avec nous, Emmanuel, il nous sauve. Yeshua, Dieu sauve. Vous voyez, nous ce qu'on aimerait, c'est un Dieu doudou qui est là pour nous rassurer quand on en a besoin. Eh bien non, ce qu'on reçoit, c'est un Dieu qui sauve, avec tous les coups de pied aux fesses qui sont nécessaires pour nous mettre en route parfois. Après le caractère inconditionnel de la grâce, c'est la transcendance qui caractérise la grâce. Quand nous saisissons la grâce, lorsque nous disons oui à la grâce par notre foi, du neuf advient, de l'inattendu advient. Et pour citer une autre Anne, Anna Arendt, vous vous souvenez que elle avait longuement dit que le miracle par lequel le monde est sauvé, c'est le fait même de la natalité. Car la natalité apporte son lot de nouveautés. Et c'est cette nouveauté-là qui sauve le monde du dépérissement. La situation, ici, n'est donc plus tout à fait sous contrôle. On ne contrôle ni les naissances, ni les projets, en ce sens que nous obtenons plus que ce que nous avons investi. Pas forcément plus en termes de quantité, mais plus en termes de qualité divine. Le troisième aspect de la grâce, après son caractère inconditionnel et son effet transcendant, c'est sa perspective universelle. Et cela, je l'observe au verset 22, qui est programmatique de ce qui va arriver à Samuel. « Lorsque le garçon sera sevré, je le ferai venir afin qu'il soit vu avec les faces de l'Éternel et qu'il habite là pour toujours. » Je vous ai fait une traduction plus littérale. Les faces de l'Éternel, c'est ce qui est traduit souvent par « devant l'Éternel ». Les faces de l'Éternel. C'est un texte un peu plus intéressant, finalement, parce qu'il indique le caractère pluriel du visage de l'Éternel. S'il est question des faces de l'Éternel, ce n'est pas pour dire que Dieu est un être surnaturel parce qu'il a plein de visages différents, mais parce que Dieu a un visage spécifique pour chacun. Nous avons chacun une image particulière de Dieu. Nous avons supposé que l'image que Anne avait au départ était celle d'un Dieu assez terrifiant, un peu trop haut pour elle. Nous avons chacun une image particulière de Dieu et demandez à votre voisin comment il dirait Dieu. S'il sort de ses formules de catéchisme, vous vous rendrez compte que ce n'est pas tout à fait comme ça que vous, vous l'auriez dit. Dieu signifie pour nous quelque chose et pour notre prochain, il signifie autre chose. Dieu signifiera quelque chose d'un peu différent à chaque fois. Même entre pasteurs, Dieu a des visages différents, et vous le savez fort bien. Les faces de Dieu, c'est une manière d'intégrer la pluralité théologique qui est tout à fait légitime aux yeux du rédacteur biblique. Et la conséquence est que le rédacteur biblique prend au sérieux l'ensemble de nos discours sur Dieu, l'ensemble de nos images mentales, l'ensemble de nos définitions, aussi imparfaites soient-elles, pour autant que nous ayons pris la peine de les penser. C'est ce que nous avions vu il y a quelques semaines au sujet du logos, la raison, qui est placée au début de toute activité humaine selon l'évangéliste Jean. Et voilà pourquoi la troisième caractéristique de la grâce ici est sa perspective universelle. Parce que la grâce n'est pas exclusive. Elle intègre tout le monde. Et par extension, elle intègre tout ce qui a trait de près ou de loin à ce que vivent les gens. La grâce est universelle de deux points de vue. Non seulement elle nous concerne tous, mais elle concerne tout ce que nous vivons. Il n'y a pas des domaines de notre vie dont la grâce serait exclue. Et il n'est pas des membres de l'humanité qui seraient exclus de la grâce. Pour le dire d'une manière négative, la grâce n'est pas égoïste. Elle n'est pas partisane. Elle n'encourage pas l'esprit de chapelle. Elle ne favorise pas l'étroitesse d'esprit. Elle n'a rien de sectaire. Elle ne joue pas pour quelque clan que ce soit. La grâce intègre l'autre dans notre équation personnelle. Elle recherche les alliances pour tenir ensemble toutes les composantes de la vie et pour ne rien laisser de côté qui pourrait participer à l'élaboration de la vie. Il y a dans le livre du prophète Ézéchiel ce curieux assemblage qui ouvre le livre avec des personnages fantastiques et qui ont des visages, des animaux différents qui regardent dans toutes les directions. C'est une manière de parler de l'universalité de Dieu, qui ne se contente pas de regarder simplement dans une seule direction. La grâce ne joue pas pour un parti en particulier. Et histoire d'insister lourdement, sa perspective est universelle. Elle recherche le bien pour tous, sans que personne ne soit sacrifié. Bon, là, il y a quand même un taureau qui y passe. Mais quand on essaie de comprendre comment se joue ce phénomène de la grâce, on comprend qu'en fait, il s'agit de tenir l'alpha et l'oméga. Voilà d'ailleurs comment se poursuit le récit biblique dans le livre de l'Apocalypse. Elle trace une perspective dont tous pourront bénéficier et qui intègre toutes les dimensions de l'existence, depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. La grâce ne monte pas les uns contre les autres, elle ouvre une perspective commune et en ce sens, elle fait communauté. C'est une communauté universelle. Et certainement, nos entreprises, nos actions réussissent-elles lorsque c'est cela que nous visons, plutôt que de viser une petite niche particulière? Quand sommes-nous véritablement touchés par une œuvre, qu'elle soit culturelle, religieuse, associative ou même commerciale, lorsque nous comprenons que nous sommes face à quelque chose qui concerne tout le monde? Une œuvre artistique devient sublime quand elle dit la beauté universelle, et pas simplement la beauté d'une situation particulière qui ne dirait rien de ce que le prochain est susceptible de vivre. Là encore, il en sera de même pour Jésus, qui découvrira que sa mission ne se limite pas aux brebis d'Israël. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, lorsqu'il rencontre cette femme cananéenne. C'est elle qui va lui faire découvrir que sa mission est universelle, même pour elle, qui est non seulement une femme, mais en plus une étrangère. Ainsi, Samuel ne va pas simplement naître, il va venir au monde, selon cette belle expression qui dit le caractère universel de chaque naissance. Se faire voir avec les faces de l'Éternel, comme c'est indiqué dans ce texte biblique, c'est être arraché au risque d'une vie égocentrée. Il ne restera pas le mignon petit enfant de sa mère et peut-être de son père. Il a une vie dont le centre de gravité va être largement excentré. Et c'est ce qui expliquera que le prophète Samuel ne cherchera pas à faire valoir le droit simplement pour lui-même. C'est la raison pour laquelle le prophète Samuel sera un vis-à-vis exigeant du peuple, auquel il opposera le point de vue de Dieu quand le peuple recherchera son propre intérêt. C'est ce qui expliquera que le prophète Samuel donnera l'onction royale à David pour remplacer le roi Saül quand il ne sera plus en mesure d'assumer ses responsabilités politiques, selon la perspective divine qu'il entrevoit. Samuel est au bénéfice d'Anne, la grâce, qu'il inscrit dans le champ de l'universel, aussi bien pour intégrer l'autre dans son équation personnelle et ne pas faire cavalier seul, que pour se préoccuper de sujets a priori qui ne seraient pas ce qui le passionnait, mais qui s'avèrent essentiels pour l'intérêt général. Et c'est en ce sens qu'il sera un véritable serviteur de la vie. Inconditionnel, la grâce est à notre disposition où que nous en soyons de notre vie. Transcendante, elle transgresse nos espoirs et nos vœux et apporte un supplément de vie. Universelle, la grâce fait de nous tous un peuple, le peuple de Dieu. Amen.